en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le squelette de Lucie Australopithecus afarensis, découvert en 1974 en Éthiopie, est un fossile pas comme les autres. Car plus de 30 ans après sa découverte, il a encore beaucoup de secrets à nous livrer. Et plus généralement, le sol d'Éthiopie continue de livrer de multiples indices sur les origines de l'humanité. Canal Academy a sélectionné les interventions d'Yves Coppens, paléontologue, membre de l'Académie des sciences, de Maurice Taïeb, géologue, et de Brigitte Senu, paléontologue également, lors d'une conférence débat autour de Lucie, conférence qui se déroulait le 19 juin 2010 au Muséum national d'histoire naturelle. Yves Coppens revient sur l'histoire de la découverte de Lucie, Maurice Taïeb évoque l'évolution des techniques de fouilles depuis 1974 et Brigitte Senu s'intéresse plus particulièrement au débat animé sur les potentielles raisons de la bipédie. Ces interventions sont animées par le journaliste scientifique Benjamin Constant. Tout de suite, on retrouve le professeur Yves Coppens.
Je voulais vous dire juste quelques mots pour lever une ambiguïté, surtout qu'on n'en parle pas. Parce que c'est un petit peu embêtant quelquefois et que c'est ambigu, mais malheureusement, et faussement ambigu. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je travaille en Afrique depuis 1960, mais ça vous est égal et je comprends très bien. Et je travaille en Éthiopie depuis 1967, et ça vous est égal aussi. Mais j'ai commencé en Éthiopie, dans le sud-ouest de l'Éthiopie, au bord d'un fleuve qui s'appelait Homo. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, hein, aller chercher les origines du genre Homo au bord du fleuve Homo, puis les trouver en plus. Or, au bord du fleuve Homo, nous étions trois parties prenantes, une partie britannique, une partie américaine, une partie française. Et les trois parties se sont organisées sous la forme de concessions, c'est-à-dire que sur le terrain, nous nous sommes divisés le terrain. Il n'y avait pas de mauvais parti pris, c'était comme ça un état d'esprit à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un secteur britannique, un secteur comme Berlin, quoi, un secteur américain, un secteur français. Et comme les Britanniques n'étaient pas contents, ils sont repartis au Kenya l'année suivante. Ils ont bien fait, hein, c'était le travail des Liki dans l'Est Turkana. Et comme les Américains n'étaient pas contents, moi, généreux, mais c'est vrai, je les ai fait venir dans le Sud, c'est-à-dire que c'est mon bloc à moi, ma concession à moi, que nous avons séparé en deux, Clark Howell dans le nord et moi dans le sud, dans ce même ensemble qui était français à l'origine, enfin peu importe aussi. Donc voilà ce que nous avions organisé en 67 au bord de la vallée de l'Homo. Et puis Maurice Taïeb, celui-là, là, il est venu, c'est bien. Hein. Maurice Taïeb faisait sa thèse au bord du fleuve Awash, donc ailleurs, parce qu'il y a confusion aussi quelquefois, au bord du fleuve Awash. Et un beau jour de 1969, je suis sûr que c'était 69 parce qu'il est venu me voir, j'étais au Musée de l'Homme. Alors avant 69, je n'y étais pas, j'étais ici. Et il est venu me voir avec une dent d'éléphant superbe, belle dent d'éléphant. Et comme c'était ma spécialité, je lui ai dit c'est telle espèce et c'est entre 2 et 3 millions d'années. Ça l'a bluffé, hein, il l'a écrit dans un livre d'ailleurs. Mais ça, c'était simple, hein, c'est notre expertise et puis c'est notre boulot aussi de savoir ça. Et donc, je lui ai dit, c'est formidable, c'est intéressant, il faut retourner. Et de toute façon, il y retournait pour sa thèse. Et le deuxième lot de fossiles qu'il m'a apporté l'année suivante, 1970, venait de Gawani. La première dent venait de Leidi et la deuxième venait de Gawani. Et cette fois-là, il y avait plus de fossiles, il y avait un petit peu de suidés, donc de cochons, il y avait un petit peu d'antilopes, il y avait aussi un petit peu de proboscidiens, d'éléphants. Et ça indiquait les mêmes choses, entre 2 et 3 millions d'années, pas plus, pas moins, 2 et 3 millions d'années en gros comme marge. Mais vous savez que là, enfin on en reparlera sans doute, que la date biochronologique est très précieuse et très précise. quelquefois plus précises même que les dates dites absolues. Et à la suite de ça, s'est réuni à Addis Abeba en 1971 le congrès panafricain de préhistoire. Camille Arambourg, avec qui je travaillais, était mort, mais Louis Leakey était vivant, il est mort l'année suivante, et Raymond Dart était là, et Maurice Taïeb, après nous avoir rencontrés, a rencontré ses grands patrons, ses grands anciens, et a été conforté dans son idée de faire quelque chose en Afar. Et ce quelque chose, il l'a fait tout de suite, c'est-à-dire qu'il a mis sur pied à ce moment-là une expédition qu'il a voulu internationale et qui s'est appelée l'IARE. Alors ça veut dire International Afar Research Expedition. Et au début, nous étions juste quatre fondateurs, deux Français, Maurice et moi. Vous avez de la chance, vous avez les deux fondateurs ici, Français, et deux Américains, Donald Johansson et John Kalb. Et on a démarré en 1972. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que Maurice, qui l'a montré encore récemment lorsqu'il a réuni à Aix un certain nombre de personnes pour fêter les 30 ans de Lucie, les 30 ans de la découverte de Lucie, Maurice Taïeb tient beaucoup à l'amitié, au lien entre les chercheurs, au lien entre les hommes aussi, et appuyé, il vient de me le dire, sur l'exemple de l'Homo, le précédent de l'Homo, de l'expédition de l'Homo, il a souhaité ne pas faire la même chose, ne pas faire de concessions, parce qu'on aurait pu avoir un bout américain, un bout français, mais lier tout le monde. Et comme John Kalb nous a quittés en 1973, nous sommes restés, Maurice Taïeb, Donald Johansson et moi-même, trois co-fondateurs et co-chefs d'expédition, si on peut dire. Et c'est la raison pour laquelle, comme lui étudiait le contenant et Johansson et moi le contenu, il existe au monde trois papas de Lucie. Il vient de me dire qu'il était papa de la maison de Lucie, c'est ça le contenant. Hein, et Johansson et moi, nous sommes papas de Lucie. Alors, ça fait des ambiguïtés gênantes, aussi bien pour Johansson quand on en parle que pour moi parfois. Autrement, en général, dans les pays francophones, je suis le papa de Lucie, regardez bien. Quand on est dans les pays anglophones, je suis détrôné et c'est Johansson qui est le papa de Lucie. Quand Johansson m'invite, il dit à tout le monde, on est tous les deux les papas. Mais c'est évidemment une ambiguïté, mais une ambiguïté qui n'est pas voulue, dont on se sert, hein, dont on profite, bien sûr, mais qui n'est pas voulu. Et comme en outre, le contrat qui n'a jamais été écrit, mais qui était encore mieux, à la manière Afar, qui était orale, était de dire, si c'est un jeune Américain qui trouve le premier reste important, le premier auteur est américain, si c'est un Français, le premier auteur est français. Comme il se trouve que le premier morceau de Lucie a été ramassé par un jeune Américain qui s'appelait Tom Gray, c'est Johansson qui a toujours signé en premier les papiers d'anthropologie. Et quand il y avait de la géologie avec, c'était Maurice Taïeb. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs copapas, il y a plusieurs coparins. Et c'est ajouté à cela une ambiguïté supplémentaire que Brigitte connaît bien et qu'elle combat, Brigitte Senu, c'est que lorsque nous avons baptisé Lucie, Australopithecus afarensis, c'était en 78, est venu s'intercaler Tim White. Tim White, qui en ce moment fait des merveilles en Éthiopie, n'était jamais venu en Éthiopie, mais il est devenu coparrain d'Australopithecus afarensis parce que Tim White travaillait sous l'autorité de Mary Leakey, c'est l'histoire, hein, à l'Aitoli, en Tanzanie, et que l'idée était que l'hominidé de Tanzanie était le même que l'hominidé de l'Afar. Pour moi, et pour Brigitte aussi, c'est une erreur. Ceci étant dit, ça a été pris comme ça à l'époque. Et du coup, Australopithecus afarensis est signé Johansson, qui est normal, White, ce qui est un peu bizarre, et moi-même. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que le type, pour les gens, pour les experts, pour les techniciens, le type d'Australopithecus afarensis, c'est une mandibule qui vient de Tanzanie. Donc il y a eu une ambiguïté qu'il faudra régler un jour, mais c'est la raison de l'introduction de Tim White parmi les coparins. Donc voilà, je voulais expliquer la raison pour laquelle il y a comme ça des copapas, des coparins, et puis un initiateur de l'opération. Et on aura l'occasion, bien sûr, au fil des tables rondes, de vous en reparler. Merci, merci beaucoup.
C'était un extrait de Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles, chanson très écoutée au moment des fouilles en Éthiopie. Comme vous le savez, c'est ainsi que les chercheurs ont donné le nom de Lucy à l'Australopithecus afarensis, découvert en 1974 par Maurice Taïeb, Donald Johansson et Yves Coppens. Retrouvons sans plus tarder le géologue Maurice Taïeb.
Le titre de cette courte conférence, c'est « Lucy et nos origines ». Éthiopienne, et j'insiste pour éthiopienne. L'Éthiopie est en Afrique. Nos origines éthiopiennes. Pourquoi éthiopienne? Parce que dans la vallée de la Wash, c'est-à-dire dans la dépression de l'Afar, eh bien, il y a toute l'histoire ancienne de nos origines et qui remonte jusqu'à 7 millions d'années. 7 millions d'années. Je reviens, j'étais au mois de janvier sur le terrain, j'ai vu les sites. J'ai vu tout ce qui a été fait après la découverte de Lucy, et j'insiste pour dire que vraiment cette dépression de l'Afar est centrale, et là une source sur les connaissances de nos origines, vraiment très importante. Je n'ai pas mis, bien entendu, là vous avez en haut Toumaï du Tchad, qui a 6 ou 7 millions d'années, et qui est bipède, et qui a été daté par la faune, Yves Coppens l'avait dit, contenu, et également par des datations nouvelles, le béryllium, qui reste encore à préciser. Juste en dessous, bon, il y a un point d'interrogation, et vous avez Hardy, l'Ardipithèque, qui est l'équipe donc de Tim White et Berhane Asfaw, parce qu'ils sont deux dirigeants dans le Middle Awash. Bien sûr, il y a Lucy. Après Lucy, il a été découvert un crâne qui montre bien que c'est un australopithèque. Et puis après, il y a la continuité vers toute l'Afrique orientale avec les Homo habilis, l'Homo ergaster, et puis en Éthiopie et dans la vallée de l'Awash, le premier Homo sapiens idactu et qui est daté de 200 000 ans. Et bien entendu, il y a Darwin qui lui avait prédit que c'est bien en Afrique qu'on allait trouver nos origines. Et là, évidemment... Pourquoi? Eh bien parce que les recherches dans cette Afrique ont été précédées par de grands bonhommes. Je regrette, je n'ai pas mis la photo du professeur Arambourg qui a été très longtemps de cette maison. J'ai cherché, je me suis préparé encore ce matin avant de prendre le TGV et revenir là. Et j'ai perdu dans toutes mes diapos celle d'Arambourg que je l'aurais mis déjà en premier. Parce que bien avant, le premier c'est bien sûr Raymond Dart qui, en 1924, qui, lui, définit l'Australopithèque, singe du Sud, et quelque chose qui n'a pas du tout été accepté. Et puis les Likés, en 1959, à Olduvai, en Tanzanie, c'est pas en Éthiopie, on trouve des australopithèques et on trouve des homo habilis. Déjà, on parle homo. On trouve les premiers pas de l'australopithèque Sialetoli de 3,7 millions d'années. Et puis, il y a le collègue et l'ami d'Yves Coppens. Tous ces personnes-là sont décédées, y compris, vous le savez, Clark Howell, et qui partageait et qui travaillait avec, dans la même région que Yves Coppens, après Camille Arambourg, après Louis Tiquet, au sud de l'Éthiopie, dans la vallée de l'Omo. Les voilà donc, Raymond Dart et Louis Tiquet. C'est une photo que j'ai prise et que j'ai rencontrée en 1971, où il y avait déjà des prémices de choses très importantes qui se passaient dans cette dépression de la Phare, et qui étaient là, ils ont été visités dans la vallée de la Ouache, un site archéologique odowayen, comme à Dubaï, Chopper Shopping Tool, et qui serait daté de 2 millions d'années, et dont on ne sait pas si ces premiers outils, à l'époque, à Dubaï ou à Melka Contouré, étaient taillés par des australopithèques ou par des homo habilis. Et la question reste toujours ouverte. Et alors, bien entendu, en 1967, je prospectais 120 000 km² de terrain dans une région où la tectonique des plaques n'était pas encore élaborée, la théorie n'était pas élaborée, et il s'est trouvé que là, c'est ça qui était important, et là, j'ai ramené une molaire d'éléphant que j'ai montrée à Yves Coppens, qu'il a montrée à Rambourg, et qui m'a dit, voilà, c'est entre 2 et 3 millions d'années, pour faire le lien avec Yves, là, tout à l'heure. Et il y a, bien entendu, les voilà aussi plus jeunes, Yves Coppens, en 1972, John Kalb, qui lui n'est pas resté dans cette internationale à Far Research Expedition pour des circonstances à la fois politico, vraiment difficiles, et j'en passe. Et voilà donc, discutant devant les dépôts de la Ouache, il y a là donc discutant autour des dépôts. Et bien entendu, on descend. Et Coppens, là, regarde ses dépôts, et on regarde sur les couches, toujours de l'éléphant, toujours des proboscidiens, et qu'on a commencé à ouvrir le premier catalogue des fossiles en 1972, et qu'on avait créé 50 localités, c'est Johansson, ici, et Coppens, faisant ce travail. Et puis, après, il y a des quantités de gens qui y travaillent, dans cette vallée de la Ouache, et en particulier en Éthiopie. Il y a, bien sûr, les découvertes qui sont faites au Kenya, qui sont importantes par, ici, Richard Liquet, encore la tribu Liquet, qui, lui, ne fait plus de recherche. Martin Pickford, qui avait commencé à travailler au Kenya, et puis qui a continué à travailler avec Brigitte Dude. Et il y a eu un colloque à Sétif, récemment, en novembre de l'année dernière. Il y a, ici, un Éthiopien, qui travaille sur des industries très anciennes, etc. Et c'est donc Jonas Beyene. Je suis à côté de lui. Il y a cette vallée de la Ouache, dans le Middle la Ouache, Tim White, qui continue à travailler et avec lequel j'ai pu visiter à la fois les sites d'Ardipithèque et un peu voir les chevaliers. Alors tout ce beau monde se trouve près du musée d'Addis et il y a un restaurant qui s'appelle le Lucy Restaurant. Alors les gens discutent. Il y a donc Tim White, Jonas Beyene. Et voilà donc aussi, vous avez Berhane Asfaw, qui sont vraiment les piliers de ces recherches qui se font en Éthiopie. Il y a bien sûr le sultan aussi qui est important, et même si c'est devenu, vous savez, les choses ont évolué. Là, ici, que j'ai rencontré à cette occasion avec un étudiant éthiopien qui a travaillé avec moi, qui est Ramadan Dalé, qui a fait sa thèse, etc. Et il y a ici le ministre de la Culture qui donne les permis, la responsable du muséum. Il y a bien sûr Sileshi qui a trouvé des industries pré-odowaliennes qui sont vieilles de 2,7 millions d'années, qu'on voit là. Il y a Yves Coppens et Johansson quand j'ai organisé le colloque Lucie 30 ans après. Et il y a ici un autre Éthiopien qui a trouvé un enfant assez complet dans la région d'Adar, au sud, et qui s'appelle, enfin, peu importe ce que ça s'appelle, et qui s'appelle Salam, un enfant complet, un squelette complet qui est important, et c'est Zare Zanzané. Il y a les plus jeunes qui poursuivent actuellement, et donc Jean Renaud, Boisserie, les recherches qui sont effectuées à l'Omo, pas dans la Ouache, Et puis, il y a également ce qui se fait également dans la vallée de la Ouache, dans la région de Lodi et de Millet. Il y a Johannes Haile-Selassie. Il y a bien entendu Raymond Bonnefy. Et bon, il y a bien sûr Brunet ici, en éthicologue. Voilà donc tous ces personnages qui sont les gens essentiels. Dans l'histoire de la découverte, bon, et bien voilà, c'est Taïeb et Johannes en 1974 en train d'examiner des os et discutant par la suite sur la bipédie ou non-bipédie de cette affaire. Tous ces sites africains, et bien c'est là où on trouve les restes d'hominidés les plus anciens, peu importe leur nom, peu importe leur nom, parce que chaque inventeur veut donner un nom. Chaque fois que quelqu'un trouve un australopithèque, il va appeler australopithèque quelque chose, australopithèque quelque chose. Il y a à peu près maintenant une quinzaine d'australopithèques, on est un peu perdu là-dessus, il faudrait réunir tout ça. Et je rejoins tout à fait Coppens, l'australopithèque pharyngis, alors qu'il y a des dizaines de mâchoires qui ont été trouvées à Ada et dans la vallée de la Ouache, on aurait dû la faire, hein, l'holotype on devrait demander dans la vallée de la Ouache et pas du tout à l'Aetolie. Alors, bien entendu, je passe sur tous ces sites. Ça, ce sont les sites les plus anciens, dont celui du Tchad. Et là, je ne vais pas en parler. Les plus vieilles industries, aussi bien à Gona, à Dar qu'à Aldouvaï. Et puis, il y a bon, toute cette histoire de la tectonique des plaques où les continents, disons, de l'Arabie et l'Inde étaient regroupés à l'Afrique. Tout ça, ça s'écarte il y a une quarantaine de millions d'années et va mettre en place finalement des rifts sur lesquels s'alignent tout ce qui est en rouge. Ce sont des volcans qui sont actifs dans toute l'histoire de la sédimentation qui se trouve dans cette dépression et c'est dans cette dimension qui sont les chronomètres de nos origines finalement puisque ça nous permet de dater et ça c'est ce qui est important, ce qui n'est pas du tout évident à faire. Il ne faut pas croire que c'est suffisant de faire la chose et mettre dans une machine et dater. Il n'y a pas que ça. On a le magnétisme, le changement magnétique. Enfin, tout ça est calibré à la fois. Alors, là, voilà. Bon, bien sûr, à mon époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de clichés satellites. Voilà ce triangle de la phare. Et voilà, qui est toujours actif, avec du volcanisme de temps en temps qui se met en activité, les dépôts. Et voilà une équipe ici, récemment, l'équipe de Tim White. Et vous avez cette vallée où il y a ici Midelawash, et Adar. Et alors, évidemment, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette dépression, c'est un triangle. Dans ce triangle, il y a des faisceaux de failles où des volcans sont alignés et des bassins qui sont alignés parallèles à la mer Oud. Il y en a d'autres qui sont parallèles à toute la grande vallée du Rift. Et c'est ces directions-là que je mets avec la flèche. Et il y en a d'autres qui sont parallèles au golfe d'Aden. Et quand on veut faire l'histoire de ces hominidés, il faut aller dans ces trois endroits. Et quand on est au centre, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Et alors, évidemment, voilà, eh bien, nous avons donc toutes ces failles que vous voyez là. La dépression ici, à Dar, se trouve à moins à 500 mètres. Il y a des dépressions qui sont sous le niveau de la mer, que demain, ça deviendra un océan. S'il y a des tremblements de terre, ça va rentrer par la mer Rouge. Le Midelawash est là. Voilà le Midelawash. Et voilà Adar. Alors donc, vous avez toute cette série de dépôts associés au volcanisme depuis 7 millions d'années jusqu'à presque l'actuel, jusqu'à 150 000 ans. C'est ce que disaient nos origines éthiopiennes. Et c'est là, et j'insiste, nos origines éthiopiennes. Et alors, évidemment, tout ça, c'est dans un cadre stratigraphique chronologique très précis. Et en particulier, Hardy, ici, que vous voyez là, a été trouvé ici 4,4 millions d'années, avec des datations, argon-argon, des datations de béryllium qui ne sont pas encore convaincantes, pour savoir si la méthode béryllium est bonne. Et puis, des changements magnétiques terrestres, vous savez, le champ varie. Et ça nous donne encore d'autres jades qui viennent s'intercaler avec les âges radiométriques par les méthodes radioactives. Bon, tout ça pour vous dire, voilà tous les sites, toutes les strates qui ont donné, les petites flèches qui ont donné des hominidés. Lucie est là, vous voyez. Avant Lucie, il y avait le genou. Et avant, il y avait autre chose, des mâchoires. Et avant, il y avait cet enfant Salam qui a été trouvé par Zéry. Bon, mais c'est pareil. Tout ça, c'est toujours de l'Australopithecus afarensis, pendant 500 000 ans, sans évolution. Pourquoi ? Il y a eu des changements climatiques. On le voit par les pollens. Je vais en parler tout de suite. Il y a eu de ces changements. Est-ce que ces changements climatiques ont fait qu'on est passé d'un système où il y a plus d'arbres à des systèmes de savane et qu'on a fait la bipédie? Je dis non. C'est une question qui est à revoir. Je le dis à Yves Coppens. Ces changements-là, elles sont à la fois d'ordre climatique et d'ordre tectonique parce que vous voyez ici, On a des fenêtres de temps qui ont été un peu mieux étudiées, tout ça publié. On a à un moment donné un lac. Après, ce lac-là, il va se réduire. Il va y avoir des rivières qui vont venir du plateau éthiopien avec leurs détails, des plaines qui vont se dégager, et la faune et les hominidés qui vont vivre là, ici. Et puis là, c'est toute l'histoire. Dans le film, on montrait les petits ostracodes. Les voilà, les petits ostracodes. Ça veut dire que les Australopithecus afarensis vivaient au bord d'un lac. Ces ostracodes qui ont été étudiés avec des isotopes, avec du point de vue biologique, c'est de l'eau douce. On a fait aussi des isotopes, c'est de l'eau douce. À cette époque-là, les lacs du rift africain, c'est des lacs d'eau salée. Bon, bien souvent, ça pose énormément de... sauf les rivières. Bon, et là, bon, on a tout ça. Voilà les éléphants, des fouilles, des carnivores, des centaines de res. Et là, vous avez toutes des quantités de choses. Et en particulier, il y a une variation, vous voyez, fort pluviosité, fort éclair, etc. Fort éclair humide, après un peu précaire, un peu plus d'aridité. Ben, c'est tout ça, l'histoire. Et là, c'est basé sur une étude d'une faune qui a été faite sur plus de 200 espèces de mammifères, les petits et les grands. Les petits et les grands. Les micros et les macros. Alors, voilà. Il y a aussi des pollens. Donc, les pollens qui ont été faits par Raymond Bonnefille, et en particulier, on a pu voir la pluviosité, les températures. Mais là, je montre, ce sont que des fenêtres de temps sur une histoire qui est comprise entre 3,5 millions d'années et 2,9 millions d'années. Eh bien, il y a des fenêtres de temps, toutes petites, qui montre que, eh bien, il y a eu des changements climatiques. On n'a pas, si vous voulez, la courbe climatique continue pendant cette période de temps. Ce sont juste des fenêtres. Ce qui est important, eh bien, il y a aussi l'Homo habilis, trouvé dans la région d'Adar, 2,6 millions d'années, encore éthiopien. Des outils, 2,6 millions d'années, c'est éthiopien. Les plus vieux outils que l'on connaisse. Bien sûr, Lucie, les différences, mais je vais finir sur juste une image. Bon, peu importe sur le squelette. Une équipe de 47 scientifiques ont travaillé autour d'Hardy, pas tous, avec la même densité, mais enfin, voilà, qui a fait l'objet de papiers récents, des papiers dans les revues internationales. Je passe sur Toumaï, où il n'y a pas de stratigraphie. Il faut vraiment, comme dit notre ami Michel Brunet, il faut balayer le désert et pousser le sable des dunes pour peut-être trouver des fossiles, creuser 2 mètres et peut-être on a la chance de trouver quelque chose. Ça a été le cas concernant Toumaï. Donc c'est avec... Il ne dit pas la chance, il dit le travail en balayant beaucoup. Alors évidemment, et là je vais vite passer, nos origines, c'est qui? C'est Toumaï, c'est Aurorine, c'est Ardipithèque, c'est Lucie. Lucie sûrement, parce qu'elle vient après. Elle vient après Toumaï, après Aurorine, etc. Et Hardy, elle vient après aussi Hardy. Bon, là, bien sûr, des comparaisons, mais là, ce n'est pas du tout une évolution linéaire, c'est-à-dire pendant 6 millions d'années, on va arriver jusqu'à là. Les Éthiopiens, c'est leur cas. Ça, c'est à revoir. Et là, je vais finir là-dessus, excusez-moi. Eh bien, il y a 3 hypothèses. C'est pour ouvrir la discussion. Et je vais aller tout de suite... Si on regarde les petits carrés de couleurs, bleu ciel, orange, bleu, on les retrouve ici dans la deuxième hypothèse et on les retrouve aussi dans la troisième hypothèse, eh bien ça, c'est une histoire qui remonte à 6 millions d'années jusqu'à l'actuel et qui montre que finalement, on ne connaît que peu de choses de cette histoire par rapport aux restes qui ont été trouvés. Donc il y a énormément à faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a maintenant la rupture? C'est ce que Tim White pense dans l'hypothèse 3, qu'il y aurait une rupture qui se serait produite autour de... avec Hardy, en quelque sorte, ou c'est pas une rupture, ou c'est des buissonnements. Et j'en resterai là. Bon, il y a l'hypothèse biologique, c'est confort. On pourra dire dans 10 ans que vraiment on est d'origine éthiopienne. Voilà, je vous remercie.
Merci à Maurice Tarrier. Je vais demander à Yves Coppens de commencer sa présentation. Merci.
Merci, monsieur Constant. Oui, moi, je voudrais dire vite 3 choses. La première, en faveur de Maurice. Maurice Taïeb, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, est arrivé un beau jour au Musée de l'Homme avec une dent. Et cette dent d'éléphant, c'était une dent d'éléphant superbe, qui venait de ce site de Leidi en Afar, a été l'amorce, le début d'un immense travail qui est conduit depuis. C'était en 1969, vous voyez, on est en 2010. C'est le même boulot qui se continue avec un déploiement extraordinaire des recherches. Et lorsque nous avons parcouru l'Afar avec Johnson, Kalb et Morris en 72, on a perçu ça. On a bien perçu ça. Puisqu'on est allé au site de Leidi, on est allé dans d'autres sites, et on s'est arrêté à Hadar parce qu'il fallait s'arrêter, mais on aurait pu aller ailleurs. Tous les sites étaient intéressants et on se rendait compte de tout le potentiel de ce grand triangle qui fait partie de la Rift Valley et qui est un effondrement où trois failles se réunissent. Donc tout ceci, c'est à la gloire de Maurice. Enfin, c'est lui qui est à l'origine de ça, quand même. C'est important, avec du recul, de le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de chercheurs, ils sont essentiellement américains et éthiopiens, mais enfin, c'est quand même Maurice, géologue, qui, cherchant des cailloux, a trouvé des os. Comme quoi, quand on trouve des os, il faut les ramasser, vous voyez. Et qui est à l'origine de cette grande histoire. Donc, premièrement. Deuxièmement, comme disait Maurice à l'instant, dans ce triangle de l'Afar, il se passe des quantités de choses, des quantités de découvertes importantes, et qui sont importantes, en effet, tout le long de l'histoire. Alors, ça commence autour de 5,8 millions, c'est-à-dire en gros 6 millions d'années, avec un Ardipithecus, qui n'est pas celui qui a été décrit récemment, mais qui a été décrit par ailleurs, qui s'appelle Ardipithecus cadaba. Et sa conduite tout au long de Ardipithecus, Australopithecus adamensis, Australopithecus afarensis, et puis Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens idaltu, il y a vraiment toute une séquence. Elle est très très bien présentée au musée d'Addis Abeba. Elle est très explicite au musée d'Addis Abeba. Et c'est un triangle qui, pour moi, hein, mais c'est pas très clair encore, a un petit peu fonctionné comme une île. C'est très intéressant, parce qu'au moment du changement climatique, au moment où apparaît l'homme, ça c'est mon business à moi, apparaissent ailleurs des paranthropes, c'est-à-dire des australopithèques robustes. Or, en Afar, il n'y a pas de paranthropes, il n'y a pas de diganthropes, il y a Australopithecus gari, qui est un autre australopithèque et qui joue le rôle de ces paranthropes, de ces ingenthropes ailleurs. Comme s'il y avait un fonctionnement sélectif particulier de l'Afar. C'est facile à comprendre, hein. Ça existe dans la biodiversité partout, mais c'est un fonctionnement insulaire, c'est un fonctionnement comme si l'Afar était une région un petit peu à part, et je crois que c'est quelque chose à regarder de plus près dans l'avenir. Mais j'ai fait un voyage récent en Éthiopie, juste après Maurice. Je l'ai suivi de près. Ça s'est trouvé comme ça, mais je suis allé en février. J'ai vu tous les fossiles et c'est très impressionnant. Donc, salut l'Éthiopie, bien sûr, mais salut l'Afar aussi, parce que c'est encore plein de promesses. Enfin, troisièmement, quand on a trouvé Lucie en 1974, on s'est dit « c'est la plus ancienne ». Mais c'était pas vrai, parce qu'on avait déjà une dent trouvée par Martin Pickford à Lukeino à ce moment-là. Certains ne la prenaient pas en considération. Moi, je l'ai toujours prise en considération. Brigitte le sait bien. Et donc, on avait déjà une information du double de l'âge. Alors, on a dit Lucie, c'était la plus ancienne. Ce n'était pas la plus ancienne. Et depuis longtemps, ce n'est plus la plus ancienne. On est à 7 millions d'années aujourd'hui, bien installés. Ensuite, on a dit Lucie est à l'origine de l'humanité. Moi, je n'y ai jamais cru. Hein. L'origine de l'humanité, elle est par là. Elle est forcément par là. Mais ce n'est pas Lucie. Tant pis pour elle. Elle n'est pas très lointaine, mais c'est plutôt une cousine. En tout cas, elle n'est plus à l'origine de l'humanité non plus. Ce n'est pas de chance. Ensuite, on a dit, elle a 20 ans. Alors ça, c'était pour plaire au public. Hein. Parce que, étant donné, elle a toutes ses dents, y compris sa dent de sagesse. Donc elle a quelque chose comme ça, mais elle a peut-être 18 ans, 19 ans. Mais 20 ans dans nos sociétés, c'est superbe. Alors on a dit, elle a 20 ans,
Vous avez entendu que quelqu'un a dit, c'est toi qui as dit c'est une jeune fille. Tiens, tu parles à 20 ans, Lucie, c'était une vieille bonne femme. Oui, d'accord. C'est une vieille bonne femme, oui. Donc, elle n'a pas non plus l'épanouissement des 20 années telle qu'on l'imagine ici. Donc, c'est pas très en sa faveur. Hein. Et d'autre part, mais ça, c'est en sa faveur par contre, on a dit c'est une fille, c'est Lucie. Et puis, Peter Schmidt, qui est ici, un jour a fait un article superbe, d'ailleurs, sur le plan scientifique, avec Brigitte, on l'a bien regardé. Bravo, hein. C'est un très bel article, mais quand même, il a dit, non, c'est peut-être bien un mâle. Et en plus, Peter, il n'a pas dit c'est Lucien, il a dit c'est Lucifer. Hein, c'est pas vrai? Alors, heureusement, Julie, bah, tu te défendras tout à l'heure. Alors, heureusement, Julie était là, et Julie a fait une thèse à la suite de Peter. Elle a fait une très belle thèse sur les filles, sur le bassin des filles, sur la statistique des mesures, et elle a conclu que Lucie, c'est bien une fille. Hein, on a gagné. Donc, elle n'est pas si vieille que ça, elle n'est pas si ancêtre que ça, elle n'est pas si jeune que ça, mais elle reste quand même, c'est ce que j'ai dit à Tim White l'autre jour, elle reste quand même le symbole de notre discipline. Et je lui ai dit, il va falloir que tu rames pour faire de Hardy quelque chose d'aussi important que Lucie. Voilà ce que je voulais dire, merci.
Bien entendu, avec Yves Coppens, on va aborder le problème du lien de cet environnement. Est-ce qu'elle vivait plutôt dans un milieu boisé, dans une savane? Est-ce que ce milieu a eu une influence sur son évolution et l'évolution en général des hominidés?
Merci. Alors, qu'il y ait un rapport entre les individus, les morphologies, les anatomies et l'environnement, c'est évident, hein. Le jour où on trouvera une baleine dans une forêt, on saura que ça n'a aucun rapport. Mais jusque-là, ça ne s'est pas encore trouvé. Donc, c'est évident. Dans des travaux récents, très récents, de Tim White et compagnie, Tim White et Lovejoy notamment, il y a eu de très intéressantes conclusions sur l'origine de notre sous-famille, autrement dit des préhumains et des humains. J'entends par préhumains Touma, Abel, Aurorine, Lucie et compagnie, et puis bien sûr les humains. Et ce qu'ils ont dit, qui me convient très bien, c'est que d'une part, ce qu'on a dit depuis très longtemps, le dernier grand carrefour, c'est un carrefour entre les pré-chimpanzés et les pré-humains. Pré-chimpanzés et pré-humains, c'est-à-dire que les chimpanzés et les hommes sont incontestablement des cousins et que nous avons des ancêtres communs et que ces ancêtres communs ont, au-delà de 7 millions d'années, on a dit 8 millions d'années, on a dit 10 millions d'années pour avoir un chiffre rond. Donc ça, c'est en tout cas conforté pour le moment, confirmé pour le moment. Et ils ont dit aussi, mais ça avait été dit aussi auparavant, ils n'en ont pas pour autant fait état, ça a été dit aussi que les pré-chimpanzés et les chimpanzés s'orientaient vers une adaptation de plus en plus forestière, c'est-à-dire que ce sont des gens, il suffit de les voir aujourd'hui, qui sont très spécialisés dans la vie, dans des paysages couverts. Et moi, j'ai dit depuis longtemps que les préhumains étaient des gens de paysages découverts. Alors, bien sûr que c'est le débat scientifique, hein, donc ils me rentrent dedans en disant non, c'est pas de la savane, c'est de la forêt. Mais finalement, dans les conclusions, ils disent bien que ce n'est pas, ce sont aussi les conclusions de Raymond Bonnefil, ce n'est jamais de la forêt dense humide, c'est jamais de la forêt dense tropicale humide, c'est de la forêt claire, et que si les gens se sont redressés, si ces gens, il y a 10 millions d'années, disons, se sont redressés, c'est-à-dire nos ancêtres, c'est pas pour rien, c'est forcément pour s'adapter à quelque chose. Et ils disent eux-mêmes, ce qui me réjouit, que c'est pour manger dans les arbres et au sol. Retenez ça. Je peux vous donner la phrase. Dans les arbres et au sol. S'ils mangent dans les arbres, c'est qu'ils grimpent. S'ils mangent au sol, c'est qu'ils marchent. Et c'est précisément ce qui caractérise les préhumains, notre préhumanité, entre 10 millions d'années et l'homme. Et ces prix humains les plus connus, ce sont Toumaï, dont on ne connaît pas encore véritablement la locomotion, Aurorine, Hardy Pithecus, qui en l'occurrence est de mieux en mieux décrit, et Lucie, qui marche et grimpe. Et puis ensuite, on s'oriente vers une bipédie, toujours debout, on est d'ailleurs toujours debout, vers une bipédie exclusive. Et alors, pour moi, enfin, il n'y a pas que pour moi, mais les phases successives, ces 10 millions d'années ou quelque chose comme ça, 8 à 10 millions d'années, ça s'ouvre forcément d'un côté. Autrement, pourquoi voulez-vous que dans une population unique, les grands-parents que nous avons de commun avec les chimpanzés, il y en a qui se mettent debout? Ça n'a pas de sens. Tout d'un coup, comme ça, on se met debout, puis on est content. Alors, vous verrez ça dans le film « L'Odyssée de l'espèce », mais ça m'a fait suffisamment de frissons et de froid dans le dos quand j'ai vu le montage définitif. Mais parlons pas de ça. Donc, ils se sont relevés parce qu'ils étaient dans un milieu particulier. Et ce milieu, il semble bien que ce soit une ouverture d'une partie, c'est pas encore clair, mais une ouverture du parti de ce monde d'il y a 10 millions d'années en Afrique tropicale. Et cette partie-là, elle s'est forcément un petit peu ouverte avec de la forêt plus claire et avec des zones un peu plus découvertes. Donc ça s'ouvre il y a 10 millions d'années, il n'y a pas que moi qui le dis, désormais, et ça s'ouvre à nouveau encore un petit peu plus il y a 4 millions d'années, ça c'est clair. Ce sont les éléphants qui le disent. Alors les éléphants, ils ne se trompent pas, hein. Quand au lieu de manger des feuilles, ils se mettent à manger de l'herbe, c'est parce qu'il y a de moins en moins de feuilles et qu'il y a de plus en plus d'herbe. C'est tout à fait logique tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on trouve d'ailleurs des gens comme Australopithecus anamensis. Et puis ensuite, ça s'ouvre alors vraiment, vraiment et solidement, dramatiquement, comme disent les Américains, mais on ne dit pas ça en français, un petit peu avant 3 millions d'années, après 3 millions d'années, ça dépend dans quel sens on se met, et c'est l'émergence de l'homme, et c'est l'émergence des formes robustes. Et en ce qui concerne Hadar, c'est Raymond Bonnefille qui a étudié à la fois les pollens, mais aussi les phytolithes, et un certain nombre d'éléments dont je pourrais vous parler plus en détail. Et elle a dit que c'était en gros une savane. La steppe était présente, mais peu présente. La savane était présente et très présente, et même un peu arborée, et la forêt claire, pas du tout dense, la forêt claire était toujours à proximité. Et c'est une région, dit-elle, à propos de Hadar, c'est-à-dire le site de Lucie, très humide, avec beaucoup de pièces d'eau, un petit peu comme l'Okavango. Et l'Okavango a été souvent pris comme modèle pour les environnements, les paysages de ces hominidés.
Le site où a été trouvée Lucie se trouve près d'un lac. Enfin, préciser un peu est-ce qu'il y avait des rivières, des lacs juste à côté, ou à quelle distance?
Beaucoup d'eau là même où était Lucie, puisque Raymond Bonnefille suggérait, comme je vous l'ai dit, cette comparaison avec l'Okavango, c'est-à-dire beaucoup d'eau avec bien sûr des ponts continentaux. De la forêt pas loin, mais des zones plutôt découvertes là où était Lucie elle-même. Quoique, à l'époque, parce qu'il y a quand même, comme vous l'a dit Maurice Taïeb tout à l'heure, une tranche d'un demi-million d'années en Afar, Et sur ce demi-million d'années, le niveau même où se trouve Lucie est un niveau moins chaud et plus arboré. Évidemment, il y a des variations quoi, tout au long de ce demi-million d'années.
Maurice Taïeb, vous vouliez...
Il y a 280 mètres de couche géologique dans le site d'Hadar. Et dans ces 280 mètres, il y a quelque chose comme presque 240 mètres de couches sédimentaires, qui sont des argiles, des sables, des sites, qui représentent et qui sont les archives, finalement, de périodes lacustres qui passent à des périodes lacustres étendues à des périodes lacustres moins étendues. Autrement dit, l'Australopithecus afarensis, dont Lucie, eh bien, il a occupé le territoire essentiellement quand les lacs se sont retirés. Il y a eu 5 périodes lacustres qui ne sont pas nécessairement des périodes lacustres étendues d'origine climatique, qui sont plutôt des choses d'origine tectonique. Autrement dit, les Australopithèques pendant 400-500 000 ans, à Pharensis, les Lucies, quoi, si vous voulez, les enfants, les arrières et les grands-pères, etc., les Afarensis, eh bien, ils ont quitté le territoire, ils sont revenus. Ils ont quitté le territoire, ils ont gardé en mémoire, ils s'éloignaient quand, disons, il y avait cet environnement qui change. Autant, et ce qu'a fait Raymond Bunfi, c'est-à-dire que j'ai dit que Raymond Bunfi a trouvé, étudié 7 niveaux avec des pollens, mais pas nécessairement les niveaux qui ont fourni l'Australopithecus afarensis. Ça peut être, et en particulier au moment d'un niveau lacus très étendu, à Ostrogoth, à Audus, etc., et qui a précédé finalement Lucie au sens strict du terme. Lucie, c'est-à-dire, voilà.
Quel genre de faune on a trouvé autour de Lucie? Est-ce qu'il y avait par exemple des mammifères aquatiques, des hippopotames, je ne sais pas, enfin des...
Oui, bien sûr. Oui, il y a toute la faune que l'on connaît à ces époques, qui est une faune de grandes savanes tropicales, la faune que l'on appelle la faune soudanaise, avec des animaux d'eau, tels que les hippopotames dont vous parlez, mais aussi les crocodiles en abondance, et puis un certain nombre de poissons, dont des silures et des latès, qu'on appelle le capitaine aujourd'hui. Et puis la grande faune de savane, c'est-à-dire des herbivores en quantité, beaucoup d'antilopes, des cochons, dont un certain nombre d'espèces, c'était plus riche que ça ne l'est aujourd'hui, qui n'existent plus, des éléphants donc, qui se sont développés à ce moment-là, dont le mammouth, c'est amusant. L'éléphase Ricky, enfin des éléphants du genre éléphase, des éléphants, ce que Ségolène appelait les éléphantiformes, et des mammouthus, et puis il y avait encore des dinotériums aussi, et puis d'autres grosses bêtes comme des rhinocéros, et puis derrière ça, bien sûr, les carnivores habituels, avec toute une série de carnivores dits à dents de sabre, parce que c'était bien plus diversifié qu'on imaginait, avec des méganthérions, dinophélis, homotherium, qu'est-ce que je peux vous dire encore, il y en a d'autres, Machairodus. Enfin, c'est toute une faune de carnivores, plus les carnivores classiques que l'on connaît bien, du genre panthère, hyène, enfin forcément, derrière tant d'herbivores, il y avait forcément des consommateurs gourmands. Enfin, c'était très riche et c'est une faune qui change très peu de temps après, pour des raisons climatiques, mais qui, à cette époque-là, était très, 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 très diversifiée, très riche.
Brigitte Senu va nous parler bien de tous ces débats animés qu'a suscité et que continue de susciter Lucie quant à sa locomotion.
Alors, Lucie 74-2010, c'est un peu un défi, parce que depuis 74, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup bougé. Les débats sont restés les mêmes, ne sont toujours pas réglés dans certains aspects de la locomotion. Mais en tout cas, en 74, c'était un grand moment, puisqu'il y a eu 3 hommes et 1 squelette, pas de couffin, mais 3 hommes qui ont été 3 pères d'un bébé, enfin d'une jeune femme, une femme adulte, dont ils ont été obligés de s'occuper. Alors moi, mon apport à Lucie et mon implication avec Lucie, ça remonte à ma jeunesse, puisque je faisais ma thèse juste après la découverte de Lucie, et les 3 papas m'ont confié les bras de Lucie. Donc forcément, je connais un tout petit peu des choses sur sa locomotion. Mais je vous rassure, il y a d'autres choses à dire aussi. Alors, je voudrais replacer ça dans un contexte. Vous êtes tous familiers avec ces représentations qui sont assez, assez perturbantes et qui, finalement, ne sont pas innocentes dans les montées du créationnisme qu'on a vécu ces dernières années. Parce qu'à force de nous montrer une espèce de bête à 4 pattes qui ressemble à un chimpanzé qui va se redresser pour donner un homme, il y a beaucoup de gens qui pensent que le chimpanzé est un ancêtre. Or, nous qui travaillons sur la locomotion, et je pense que Peter ne sera pas contre, ça fait des décennies qu'on dit non, le chimpanzé n'est pas, enfin d'autres l'ont dit avant nous, mais à partir de Lucie, Lucie a toujours été montrée comme un intermédiaire entre le chimpanzé et l'homme, et du coup ça a créé des confusions dans l'esprit des gens. Et ces fresques que vous retrouvez encore aujourd'hui, elles proviennent d'une ici d'un dessin qui a illustré un livre de Francis Clark Howell sur l'évolution de l'homme, où on voyait ce redressement progressif. Moi, on m'a enseigné comme ça à l'université ici à Paris 6, où on voyait une espèce de singe à quatre pattes qui se redressait pour donner l'homme. Et il faudra ôter ça de vos idées, l'homme ne s'est pas redressé. Alors là, on a quelques débats internes ici, on pourra peut-être discuter tout à l'heure. Mais vous voyez qu'on l'a décliné sous toute une série de formes en fonction de l'évolution des idées et de notre propre siècle, et maintenant millénium. Alors je vous me suis permis de vous mettre celle-ci à droite, là, parce que c'est pour la première fois dans l'évolution de l'homme, on parle de la femme, ce qui est quand même un peu triste, parce qu'il y a eu Lucie, et puis Lucie, elle a été étudiée que par des messieurs. Il y a eu très peu de femmes qui se sont frottées à Lucie, et j'allais dire, grâce à Yves Coppens et ses copapas, nous avons été plusieurs femmes à pouvoir avoir Lucie dans la main. Alors tout ça nous amène à des problèmes d'évolution de la locomotion. Alors on dit que la bipédie est un caractère qui définit l'homme, certes, mais on dit aussi, on l'a écrit de manière un peu abrupte dans les quotidiens ces dernières années, que la bipédie n'est pas un bon caractère parce que tous les primates sont bipèdes. Certes, c'est vrai également. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au sein de ces primates, ordre auquel nous appartenons, nous sommes le seul primate à savoir marcher pendant longtemps, sur de longues distances, sur nos deux pattes arrière, en étant toujours efficace de manière du côté respiratoire. On est les seuls à savoir faire ça. Donc la bipédie, elle définit bien l'homme, mais c'est une bipédie de type humain, et j'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça nous emmènerait trop loin, mais on connaît dans le Miocène, dans des périodes de 8 à 10 millions d'années, on connaît des grands singes, qui sont bipèdes, mais qui ne font pas partie de notre famille. Alors, ces idées qui nous viennent déjà de Darwin, où on parlait d'évolution de l'homme, en fonction de... qui apparaissait dans la savane, la bipédie était apparue dans la savane, ont d'une certaine manière plombé notre travail de locomoteur, c'est-à-dire de primate locomoteur. Et je me suis intéressée depuis plusieurs années avec mon collègue à côté qui complétera certaines parties sur lesquelles je vais passer assez vite. Est-ce que la bipédie est née au sol ou est-ce qu'elle est née dans les arbres? Ça, c'est le grand dilemme. Et dans les arbres, est-ce que c'est un animal qui se suspend, qui grimpe, qui saute ou qui est quadrupède dans les arbres? Donc, il y a toute une série d'anatomistes fonctionnels qui se sont intéressés à ce problème. Et finalement, on a pu, par comparaison, pas seulement entre le chimpanzé, l'homme et Lucie, mais surtout remis dans un contexte beaucoup plus large, avec des cercopithèques, avec des ouistitis, avec des gorilles, des chimpanzés, des orang-outans, des hommes, avec un éventail d'éléments beaucoup plus large, on a pu cerner les caractères de Lucie et des autres australopithèques. Alors, il y a aussi une idée qui a été en vogue pendant un certain temps, c'est que finalement, les hominidés s'étaient redressés un peu comme l'enfant qui marche à quatre pattes et qui se redresse. Ça ne peut pas marcher, c'est pas un mauvais jeu de mots, c'est que l'enfant, comme vous pouvez le voir, il a déjà un petit cul assez relevé, il a les jambes arrière, les pattes arrière déjà assez longues et ses membres supérieurs courts, alors que sur les chimpanzés, c'est complètement l'inverse, le membre antérieur est très long et le membre postérieur est plutôt court. Donc ce sont deux systèmes complètement différents qui peuvent avoir un ancêtre commun, mais l'un ne peut pas dériver de l'autre. Enfin, de manière très provocatrice, certains collègues, il y a une vingtaine d'années, ont proposé que les chimpanzés étaient descendus de l'homme et qu'il y avait une sorte d'être un peu mythique qui était remonté à l'arbre après. Enfin bon, ça c'est une histoire qui est un peu enterrée aujourd'hui, mais qui sait, elle reviendra peut-être un jour. Alors Lucie, elle est toujours au centre d'un débat, c'est pour ça que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est que Lucie, elle est bipède, personne ne le conteste, elle marche sur ses deux pattes. Toutefois, selon les collègues interrogés, selon les études faites, nous avons toujours aujourd'hui deux grandes idées. Ou elle est bipède comme vous et moi au sol, elle sait courir comme vous et moi, ou bien elle a eu un parcours un peu arboricole. Alors, ceci m'oblige à vous reparler un tout petit peu du Miocène, où dans le Miocène, dans des périodes qui vont de 20 millions d'années à environ 6 millions d'années, eh bien, tous les grands singes de grande taille que l'on connaît, que ça aille de l'Afropithèque, que ça aille les grands proconsuls, que ça passe par les Nacholapithèques, etc., tous ces pithèques du Miocène sont arboricoles. Il n'y a pas de bipèdes dans le Miocène inférieur et moyen, ce sont tous des bêtes qui sont arboricoles. Donc il y a certainement quelque part là quelque chose d'important dans notre histoire. Et quand on regarde Lucie, Alors, à part son bassin, je vous dis qu'il y a des caractères du bipède, mais aussi des caractères qui sont un peu différents de ceux de bassin humain. Ils ont un genou, comme l'a montré Christine Tardieu, qui sont différents des genoux de l'homme actuel. Et puis, surtout, ses membres supérieurs. Elle a une omoplate. Elle va ressembler non pas à celle de l'homme avec une orientation très latérale, mais son orientation va être beaucoup plus vers le haut. Et elle va ressembler en cela beaucoup plus aux orang-outans, beaucoup plus aux chimpanzés, beaucoup plus aux gibbons. Donc c'est un animal qui avait l'habitude d'avoir des mouvements vers le haut de son membre supérieur. Et puis les articulations de son membre supérieur sont beaucoup plus proches de celles du chimpanzé ici. Ça ne veut pas dire que c'est du chimpanzé. Ça veut dire qu'elle est capable de bloquer son articulation pour des mouvements de grimper. Mais elle ne marche pas à quatre pattes comme chez le chimpanzé, parce qu'il lui manque ici un caractère très fort, cette crête qui va permettre de stabiliser l'articulation. Donc sur l'humérus, comme sur le radius, comme sur le cubitus, on pouvait dire c'est un animal qui a des caractères proches de l'homme, mais des caractères aussi très proches des chimpanzés. Mais ce n'est pas du chimpanzé, ce sont des caractères qu'on va retrouver chez d'autres animaux qui vivent dans les arbres. Ce qui nous a guidés vers une conclusion que Lucie pouvait être arboricole. Ceci étant, ça a beaucoup remué le domaine, puisqu'on a eu un colloque, je me souviens, Ancestors à New York en 1985, où un de mes collègues s'est levé en me pointant du doigt en me disant « You are an heretic ». Et ça, c'est très dur devant 400 personnes de vous entendre dire ça. Je ne sais pas si M. Coppin s'en souvient, mais moi, j'étais très, très mal. Et heureusement, en descendant de l'estrade, j'ai rencontré le professeur Charles Oxnard, qui est un spécialiste de la locomotion des primates, qui m'a dit « Please, Brigitte, join the club ». Donc, je me suis dit « Il faut y aller ». Mais ce qui est intéressant, c'est que d'autres travaux ont été faits par la suite. Donc il y a eu ceux de Christine Tardieu, ceux de Christine Berge, Yvette de Loison, Peter en particulier, qui a fait une reconstitution de Lucie. Tous ces travaux ont montré, à un moment ou à un autre, des caractères d'arboricolie chez Lucie. Et ça collait assez bien avec ce qu'on connaissait de l'environnement, qui n'était pas une savane sèche, mais plutôt un fourré d'altitude où il y avait des fruits, où il y avait des choses, où Lucie n'était pas complètement libérée d'un milieu certainement arboré. Et dans un colloque de 96 en Italie où nous avons évoqué ce problème, c'était l'affiche officielle du congrès à l'époque. J'y étais pour rien, je n'étais pas consultée. Pour la première fois, on voyait un animal qui n'est pas redressé au sol, qui descend de l'arbre, mais avec les données que l'on a maintenant dans le Miocène, on n'a pas du tout besoin d'un stade redressé. Et ça, c'est une chose qui restera dans la conscience collective et qui nous vient de très très loin dans notre histoire. Alors, juste une photo, puisqu'on parle un peu d'environnement, pour vous montrer aussi toute la paléopoésie qu'a suscité Lucie, et surtout montrer qu'au départ, on l'a mis dans des milieux très secs, et puis au fur et à mesure des temps, on l'a mis un peu plus dans les arbres, et jusqu'à cette représentation de Geo Deutschland en 2000, où on l'a carrément mise dans un milieu très arboré. Mais en tout cas, on ne l'a plus vu exclusivement au sol. Et ça, c'est très intéressant, puisque ça colle très bien, alors peut-être trop bien, il faut toujours se poser des questions, que ça colle très bien, il y a certainement un problème quelque part. Mais ceci étant, ça colle très bien avec ce qu'on connaît des environnements et des locomotions des grands singes dans le Miocène. Alors Lucie, quel est son apport ? Eh bien, son apport, il est immense. Immense parce que c'est le reste de la référence. Toute nouvelle pièce trouvée actuellement en Afrique ou ailleurs, puisqu'il y a des pièces qui sont trouvées aussi en Europe, et en Asie éventuellement, reste une référence puisqu'on la compare, Lucie. Alors nous, bien sûr, avec Aurorine, que nous avons trouvé l'année 2000 et les années successives, nous avons eu la chance d'avoir un bout d'humérus qui ressemblait fort, ici, à cette partie de chez Lucie. Rien à voir avec un homme. C'était intéressant. Le fémur, alors ici un chimpanzé et Aurorine, eh bien si je regarde, compare ce fémur avec celui de Lucie, les positions des muscles sont différentes, la longueur du col est différente, les proportions de la tête sont différentes, les orientations sont différentes, ce qui nous a fait dire qu'Aurorine ne pouvait pas être un Australopithecus afarensis, parce que si Lucie et les afarensis étaient considérés comme des ancêtres de l'homme, il fallait admettre que certains caractères plus humains devenaient plus Lucie ou plus afarensis pour redevenir plus humain, ça faisait des yo-yo fonctionnels qui étaient extrêmement gênants. Alors, Aurorine, qu'est-ce que c'est ? C'est un premier hominidé. Tous les collègues qui ont travaillé de manière indépendante sur le matériel sont arrivés à la même conclusion, même si nous ne sommes pas d'accord sur l'interprétation, mais ça, c'est le débat scientifique normal. Une pièce importante, et je suis heureuse de faire un petit clin d'œil à Zara et à Elem Seged, parce qu'il devait être là parmi nous, il n'a pas pu venir de Californie, malheureusement. Mais Zara, il y a eu cet immense bonheur de trouver l'enfant de Dikika, la jeune fille de Dikika. Et ce qu'il a trouvé au niveau squelettique montrait très nettement que l'enfant de Dikika était aussi arboricole. Donc l'arboricolie des Afarensis semblait bien établi grâce à Zaraï. Alors Zaraï, c'est quelqu'un qui est cher à notre cœur puisqu'il a fait ses études à Paris. Je l'ai eu comme étudiant. Yves Coppens a dirigé sa thèse, donc c'est quelqu'un pour lequel on a beaucoup, beaucoup d'amitié. Donc un petit coucou, il ne nous regarde certainement pas, mais en tout cas, son Lucie et son squelette restent des valeurs sûres dans les comparaisons. Alors maintenant, il y a reste deux problèmes. Le problème de l'Aitoli. On se trouve à 3,6 millions en Tanzanie, sur le site de l'Aitoli qui a livré ses traces de pas. Comme l'a dit Yves Coppens tout à l'heure, donc il y avait ses traces de pas à l'Aitoli. Et il nous a dit aussi que l'espèce Afarensis, merci Peter, que l'espèce Afarensis avait été, le type de l'espèce a été créé sur les gisements de l'Aitoli. Donc, de manière logique, quand les traces de pas ont été trouvées, on a dit c'est de l'Afarensis. Et on a commencé à décrire toute une série de caractères, des allongements d'orteils, des écartements de pouces, et tout ça, tout le monde était content, ça c'est de l'Afarensis. Et puis dans les années 80-90, Russell Tuttle de l'Université de Chicago a fait un énorme travail. Il a comparé plus de 400 empreintes de pas d'Amérindiens actuels qui ne portent pas de chaussures, et il s'est aperçu que les traces de pas de l'Aitoli, ben, on les trouvait aussi. Aujourd'hui, les gens qui ne portent pas de chaussures, moi je l'ai vu sur mes ouvriers au Kenya ou en Ouganda, ils ont tendance à avoir un gros orteil, non pas divergent, mais très légèrement divergent, parce que c'est un point d'appui majeur pour eux, dans la boue, etc. Et en fait, quand on voit les empreintes de pas, alors ici c'est un pas d'homme moderne, j'ai pris ces photos en Namibie en 1991, dans les zones interdunaires, de pannes interdunaires, et vous voyez ici l'empreinte d'un homme parfait, ou d'une femme. Cet être a glissé, ses orteils se sont allongés, et puis, un peu plus loin, sur la trace de pas, elle a été érodée. Et grosso modo, on pouvait retrouver des figures proches de celles de l'Aitoli aujourd'hui. Tout ça pour vous dire qu'en ichnologie, il faut faire extrêmement attention quand on travaille sur les empreintes en fonction du substrat, en fonction de la qualité du substrat, de sa fluidité. Vous n'avez pas les mêmes traces d'empreintes et ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes une espèce d'homme différente. Donc, il y a encore un doute, mais Peter, je sais, va dire des choses très intéressantes à ce sujet. Enfin, ma dernière photo, vous avez bien sûr tous suivi l'Ardipithèque il y a peu de temps. Et là, moi, j'étais un petit peu gênée par cette publication, pour une raison simple, c'est que le bassin est pulvérisé et on en a fait un bassin quasi humain. Mais ce qui m'a surtout gênée, c'est quand on regarde le nombre de vertèbres conservées, et à partir de ces deux vertèbres, on a fait une reconstitution quasi humaine. Et quand on regarde dans le détail la massivité des os, les courbures des os, moi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à en faire un hominidé sensu stricto. Alors, dans leur papier, dans le papier de mes collègues, il y a une petite phalange ici, de pouces, et on a la phalange d'Aurorine qui a été publiée en 2005. Et voici Ardipithèque, voici le chimpanzé. C'est certainement pas ici une phalange d'hominidée. Ça ne colle pas avec les phalanges d'hominidée. Alors, moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas un hominidé. Alors, bien sûr, ça va faire couler de l'encre encore pendant longtemps, mais c'est aussi ça, l'avancée de la science, c'est le débat scientifique. Lucie a été aussi une référence pour ce squelette. Et je voulais vous montrer deux reconstitutions qui en ont été faites, trois en fait. Une qui a été faite en 1995. Vous voyez que ça ne ressemble pas vraiment à un hominidé. En 1994, juste après la publication des premiers restes, voici ce qu'on en a fait. Maintenant qu'on a le fragment de crâne et le reste du squelette, tout ce qui était hominidé à l'époque est devenu chimpanzé. Et toute cette partie qu'on ne connaissait pas, qui était placée dans les parties plutôt chimpanzées, sont devenues plutôt hominidées. Alors, c'est un complexe difficile, mais tout ça aussi, ça va nous renvoyer à la troisième table ronde où on parle justement de la représentation. Parce qu'à partir d'un squelette, forcément, vous avez plusieurs représentations. Alors, pour conclure, en deux mots, eh bien, d'une part, l'homme ne s'est certainement pas redressé. On a assez maintenant d'éléments dans le Miocène pour dire qu'il a été arboricole et terrestre à la fois. Et je voudrais aussi dire que dans tous ces groupes d'hominidés anciens, jusqu'à 4 millions, 3 millions d'années, eh bien, finalement, c'est extrêmement difficile de s'en sortir. sortir parce qu'on a souvent des parties qui ne sont pas conservées de manière équivalente. Donc aujourd'hui, il y a un débat et que pour que la science vive, il faut que ce débat soit perdure, en tout cas. Merci beaucoup.
Merci.
C'était Brigitte Senu, elle intervenait sur les raisons des débuts de la bipédie chez les hominidés. Brigitte Senu, Maurice Taïeb et Yves Coppens intervenaient dans le cadre d'une journée de conférence-débat organisée au Muséum national d'histoire naturelle à Paris en juin 2010. Canal Académie a sélectionné quelques extraits de cette journée, mais vous pouvez retrouver la totalité de ces interventions sur le site internet du muséum www.mnhn.fr. Nous vous invitons par ailleurs à rester sur Canal Académie à l'écoute de nos émissions sur la paléontologie en compagnie d'Yves Coppens, Philippe Taquet, Henri Delumelay et bien d'autres. Merci et à bientôt pour de prochaines retransmissions.